Et les filles, j'arrive pas à croire que je l'ai fait. Je crois qu'on est déjà à l'épisode 5. Donc aujourd'hui, on est samedi. Waouh, attendez, je suis déjà choquée. Je suis très choquée. Parce qu'au moment où j'organise. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est dimanche 7 avril. Donc aujourd'hui, il y a un épisode qui va sortir, mais je sais même pas s'il est sur quoi. Je sais pas s'il va vraiment sortir. Mais voilà. Donc au moment où je fais cet épisode, je suis un peu choquée que j'ai tellement d'avance, quoi. Mais bref. Aujourd'hui, cet épisode, il s'appelle Opposition et confrontation. Comme tu le sais, Jésus, c'est un personnage très important de l'histoire, si ce n'est le plus important de l'histoire. Et désolée, j'ai le nez qui gratte à cause du pollen, je pense. Et du coup, il a eu de nombreuses personnes qui ont été contre lui. On peut parler des Romains qui emprisonnaient et torturaient les chrétiens. On peut parler des Juifs. On peut parler des pharisiens. On peut parler, bref, il y en a des gens. Peu importe où, il y a toujours des gens qui ont été contre le message apporté par Jésus. Et donc, ce qui est beau et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en gros, Jésus, il a toujours été droit envers cette personne-là. Il est toujours resté dans ses principes. Parce que Jésus, c'est une personne qui est intègre. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est une personne intègre. Et c'est une personne que j'admire énormément sur ce point-là et sur quasiment tous les points de sa vie. Enfin, sur tous les points de sa vie. Et du coup, maintenant, on y va à partir de la Bible. Et j'aimerais d'abord qu'on parle des conflits qu'il y a eu avec les pharisiens, donc dans Matthieu 23. C'est très important que je donne les références à chaque fois. C'est non seulement comme ça, j'ai le temps d'y chercher moi-même, mais aussi comme ça, toi aussi, tu as les références. Et c'est un peu important d'avoir des connaissances, au moins de où se situe ta histoire par rapport à la chronologie biblique. Alors, Jésus critique les chefs religieux. Donc, il dit aux disciples, celui qui va être au-dessus des autres, ce sera le dernier au final. Que, bref, tu vois, les rôles finissent toujours par s'inverser, etc. Et que ça sert à rien de vouloir se penser supérieur, vouloir se donner des grands titres. C'est comme les gens qui sont qui veulent à tout prix être responsables à l'église, etc. Enfin, pour moi, c'est des objectifs, en fait. Du coup, je comprends pas la visée. Ton but, c'est même pas de démangéliser, c'est juste d'être responsable à l'église pour avoir un titre à l'église. Pour moi, c'est pas honorable. Désolé, mais pour moi, c'est pas honorable. Et du coup, il dit, oui, mais quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens. Vous êtes des hommes faux. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent. Ça veut dire qu'eux, ils ont connaissance, entre guillemets, de ce qui se fait ou pas. Mais eux, en fait, ils sont tellement dans leur cupidité que ça veut dire qu'ils sont même plus en train de guider les gens vers Dieu. Ils guident les gens dans la cupidité, vers l'adoration de eux-mêmes. Et après, du coup, il y a des confrontations, parce que Jésus critique ouvertement ce qu'ils font. Donc après, il dit, quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, comme vous êtes des hommes faux, vous détruisez des tombes pour les prophètes, vous décorez les tombes de ceux qui ont obéi à Dieu, et vous dites, si nous avons vécu autant de nos ancêtres, nous n'aurons pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes. Ainsi, vous le montrez vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Eh bien, continuez. Allez encore plus loin que vos ancêtres, serpents, espèce de vipères. Vous ne pouvez pas éviter la punition de Dieu. Et là, avant de dire que je suis violente, c'est les propos de la Bible. Pas mal. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des gens pour vous enseigner. Vous les tuerez. Vous tuerez les uns et vous clouerez sur des croix. Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière. Et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. D'abord, il y a eu le meurtre d'Abel. Donc Abel, le frère de Caïn. Donc c'est quelqu'un qui avait fait un sacrifice à Dieu. Et que son frère l'a tué parce qu'il était jaloux. Cette histoire, si tu veux vraiment savoir, elle est sur mon compte TikTok. Je l'ai racontée. Bref. Et à la fin, il y a eu le meurtre de Zacharie, le fils de Bakary. Ça, je vais en parler. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. Et je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Donc, ça montre aussi que ce qu'ont fait nos ancêtres n'a pas vraiment d'importance sur notre destinée tant qu'on ne fait pas la même chose. Dès le moment où tu te comportes comme tes ancêtres, tu vas avoir la même punition que tes ancêtres. Parce que souvent, les gens sont là en mode « Oui, mes ancêtres, ils ont fait ça, je ne me sens pas concernée. » si tes ancêtres, ils ont fait quelque chose et que toi, tu perdures dans cette même mentalité, dans cette même chose, tu es au même titre que tes ancêtres. Donc, comme tu vois, il y a eu un gros conflit avec les pharisiens, avec les scribes, avec la façon dont ils traitaient les gens et la façon dont ils font traiter les gens parce qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aider les gens à connaître Dieu. Ils servent leurs propres intérêts. Ils se font appeler maître de la loi, mais c'est eux qui font la loi. Ils ne suivent pas la loi de Dieu, en réalité. Ensuite, on a Matthieu 12. Okay, et ça, c'est la controverse sur le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de repos, il me semble. Le jour où on se repose. Je ne vais pas vraiment expliquer ça, mais c'est un peu comme la même considération que le dimanche, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. C'est le jour où on rend colère à Dieu. Enfin, on ne fait rien de dingue et tout, bref. Donc là, la Bible PDV, elle a divisé ça en deux morceaux. Et du coup, je vais lire. Donc, c'est dans Matthieu 12, versets 1 à 14. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Peu de temps après, Jésus traverse des champs. C'est un jour de sabbat. Ses disciples ont faim. Ils se mettent à arracher des épis et ils mangent les grains. Quand les pharisiens voient cela, ils disent à Jésus, « regarde ce que tes disciples font. Le jour du sabbat, c'est interdit. » Et Jésus leur répond, « Mais vous n'avez pas vu ce que... Vous n'avez pas vu ce que David a fait. Un jour, il avait faim. Et ceux avec qui il était avaient aussi faim. Il est entré dans une maison. Il est entré avec eux dans la maison de Dieu. Et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'en manger. Ni David, ni ceux qui l'accompagnaient. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Ou encore, est-ce que vous n'avez pas lu ceci dans la loi? Le jour du sabbat, les prêtres dans le temple ne respectent pas le repos du sabbat. Pourtant, ils ne sont pas coupables. Mais je vous le dis. Ici, il y a quelque chose de plus important que le temple. Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En effet, vous ne savez pas le sens de cette phrase dans les livres saints. Entre guillemets, enfin, du coup, il cite « Je désire l'amour et non les sacrifices des animaux. » Et Jésus dit encore « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le Fils de l'homme, c'est lui. Jésus guérit un homme à la main paralysée ensuite. Donc Jésus quitte cet endroit et il va dans la maison de prière juive. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Des gens, ils veulent avoir une raison pour accuser Jésus. Alors ils lui disent, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Et Jésus leur répond, mais par exemple, vous avez un seul mouton et le jour du sabbat, il tombe dans un trou. Vous allez sûrement le prendre pour sortir du trou. Et un homme est beaucoup plus important qu'un mouton. Donc on a le droit de faire du bien le jour du sabbat. Jésus dit à l'homme, tends ta main. L'homme tend sa main et elle est guérie. Elle redevient comme l'autre main. Les pharisiens sortent et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus. Tu vois, non. Donc, déjà, ils ne peuvent même pas le contredire. Donc, ils ne cherchent même plus à le contredire. Ils ne cherchent plus à avoir raison. Non, maintenant, ils cherchent à comment ils vont le faire mourir, carrément. Parce que, ben, du coup, il leur fait perdre sûrement de l'argent et il leur fait perdre leur statut. Donc, le sabbat, c'est le jour où on se repose. Donc, on est censé vraiment ne rien faire de fou, comme je t'ai dit. Et... on n'est pas censé faire x choses. Tellement, enfin, t'as compris dans le verset que c'est des choses qui sont interdites. Et qu'en fait, Jésus, il rétorque avec la Bible en disant que c'est pas parce que c'est interdit dans un contexte que c'est vrai pour tous les contextes, tu vois. Je dis pas que les péchés deviennent autorisés, mais là, c'était même pas des péchés. En fait, ils les ont accusés à partir de choses qui étaient hors du contexte. Et c'est pour ça que je déteste les gens, genre, tu vois, qui vont vouloir prendre la Bible un peu comme vous voulez. Soyez toujours sûr que vous n'êtes pas face à quelqu'un qui a une meilleure connaissance de la Bible que vous. Parce que déjà, sinon, c'est la honte de dire n'importe quoi et de parler avec assurance. Et en plus, voilà. En plus, j'ai pas envie d'argumenter. Donc ensuite, on continue dans Luc 4, versets 14 à 30. Luc 4, versets 14 à 30. Et là, c'est notre troisième et dernière partie. Je sais que t'es triste, mais voilà, c'est ainsi que finit l'épisode. On est dans le rejet de Jésus dans sa propre patrie. En fait, Jésus a été rejeté dans sa propre patrie. Ah pardon, je suis tombée, c'est pas Luc 14, c'est Luc 4, verset 14. Enfin, je pense que c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai noté. Donc c'est Luc 4, verset 14 jusqu'à verset 30, je crois. Ouais, c'est ça. Verset 14 jusqu'à verset 30. Donc, le rejet de Jésus dans sa propre patrie. On va lire. Version BTV. Jésus rempli de la force du Saint-Esprit revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons des prières et tout le monde dit beaucoup de bien en lui. Jésus annonce la bonne nouvelle. Jésus vient à Nazareth, là où il a été enlevé. Le jour du sabbat, il entre dans une maison de prière, toujours le sabbat. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et il trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer ces années où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et il s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que les livres s'annoncent, et bien aujourd'hui, cela s'est réalisé. Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, pourtant cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. Jésus leur dit, vous allez certainement me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire, nous avons pris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici dans ton village. Puis Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. C'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé pour aider une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon, à l'époque du prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël. Il a guéri Naaman, le Syrien. Donc, en gros, c'est aussi pour dire que ça a deux morales. Sur le plan de la vie de Jésus, ça nous montre en fait qu'il était mal reçu de là où il venait. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur nous ? Ça nous apprend qu'en fait, l'endroit où Dieu te fait naître, où Dieu te fait grandir et évoluer, c'est pas forcément l'endroit où Dieu va vouloir que tu agisses. Dieu peut te faire vivre à Paris pour que tu ailles agir à Londres. Dieu peut te faire vivre à Londres pour que tu ailles agir à New York. Dieu peut te faire aller à New York pour que tu ailles agir à Tokyo. Le contexte dans lequel Dieu nous met, c'est pour nous former. Mais par exemple, un soldat qui a été formé, en Alsace, est-ce que ça veut dire qu'il va servir qu'en Alsace au cas où il y a une troisième guerre mondiale ? Non, si tu es formé en Alsace, tu es prêt à aller... Là, on va te désigner en fait un régiment. Si on te dit que tu dois aller servir, au Liban, tu vas servir au Liban, tu vois, parce que t'es militaire, t'es formé pour ça. T'es pas formé pour servir dans un contexte, t'es formé pour servir là où on t'assigne. Et voilà. Donc, je récapitule les 3 aspects de la vie de Jésus qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a vu ses conflits avec les pharisiens, les maîtres de la loi et les scribes. On a vu la controverse sur le sabbat. Comment en fait il a su par sa brillante connaissance des écritures montrer comme quoi l'accusation des gens quand il n'était même pas dans le péché c'était pas bien, et ensuite le rejet de Jésus dans sa propre patrie pour montrer que en gros il n'a pas été considéré, il n'était pas vraiment aimé, et les gens ils disaient souvent ouais médecin guéris-toi toi-même, tu vois en fait que tout bien commence par soi, mais en fait non c'est plutôt l'inverse parfois quand on prend vraiment la Bible, ce qu'il faisait à merveille, c'est de prendre toujours la Bible pour s'appuyer sur ce qu'il disait, enfin prendre les saintes écritures pour appuyer ce qu'il disait. Voilà, et on se dit à très 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 bientôt. Je te fais plein de bisous, enfin la bise, et tu es béni, j'ai une bénédiction. On se dit à demain pour l'épisode 6.